bonsoir à tous. Vous m'entendez ?
Oui.
Alors, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Dominique Lebrun, qui est journaliste, écrivain et spécialiste du XVIIIe siècle. Dominique Lebrun est l'auteur de nombreux ouvrages, je crois plus de 200, hein, vous m'avez dit, en 30 ans.
C'est pas un mensonge.
Donc, assez important. Ces dernières années, il s'est plus particulièrement consacré à l'univers maritime, sous ses aspects culturels, littéraires et historiques. Et vous avez notamment publié des ouvrages sur Bougainville en 2014 et sur La Pérouse en 2012. Vous êtes d'ailleurs venu au Château de Versailles faire une conférence. Donc ce soir, vous venez nous présenter votre nouvel ouvrage sur Vauban, hein, l'inventeur de la France moderne. Alors on est ravis de vous accueillir pour cette conférence parce que de mémoire, je crois que c'est la première conférence que nous avons sur ce sujet. Donc voilà, c'est vraiment on est vraiment ravis de vous avoir. Je profite simplement pour vous indiquer qu'il sera possible de vous procurer l'ouvrage de Dominique Lebrun à la fin de la conférence et vous pourrez donc le faire dédicacer par l'auteur. Et une dernière chose, j'ai disposé également sur la table des bulletins de commande de la carte de vœux qui est disponible. En fait, vous allez recevoir le bulletin de commande avec le programme d'activité qui va vous parvenir pendant les vacances de Noël. Mais si vous voulez commander la carte de vœux dès maintenant, voilà, vous avez la possibilité de prendre le bulletin de commande en sortant. Voilà, là, je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Oui, c'est la première conférence au roman de donner ici. Dans le fond, il n'y a rien de plus normal parce que c'est tout à fait paradoxal de venir parler de Vauban à Versailles dans la mesure où s'il y a un endroit en France où il n'a pratiquement jamais été, c'est bien le château de Versailles. Vauban avait l'oreille de Louis XIV. Louis XIV était friand, avide même, l'avis de Vauban sur beaucoup de choses. Mais Vauban, lui, était tout le temps sur le terrain, c'était pas un homme de cour. S'il écrivait à Louis XIV, ce qu'il a fait assez souvent, c'était toujours dans l'intérieur des ministres, parce qu'il était extrêmement respectueux de la hiérarchie, mais en revanche, il n'y allait pas, il y allait très directement quand il le fallait. Alors, Vauban, vous savez, c'est l'homme des fortifications. En principe, on dit que c'est l'homme aux 333 places fortes, dont un certain nombre existait déjà avant mais qu'il avait rénové, mais qu'importe. Mais de son vivant, en fait, il était surtout connu pour les prises de places fortes ennemies. Vauban est l'homme qui a réussi à prendre 53 places fortes ennemies sans perte excessive. Mais on va y revenir tout à l'heure. Le roman dont je vais vous parler ce soir, en réalité, ce sera moins celui des fortifications que celui d'un aspect tout à fait différent. Pour résumer mon propos de tout à l'heure, je vous dirais que, vous le savez peut-être, certains d'entre vous, l'inventeur de l'impôt sur le revenu, c'est Vauban. Le premier à avoir songé, en époque de royauté, que l'État devait être laïque, c'est Vauban. L'invention des statistiques économiques, c'est Vauban. L'organisation de l'armée royale que l'on attribue à Louvois, c'est Vauban, sur demande, sur commande de travaux, qui n'était fait pas mais c'est Vauban. Vauban, en fait, j'ai intitulé, sous-titré mon livre « L'inventeur de la France moderne ». Je dois vous avouer que lorsqu'on a eu l'idée, mon éditeur et moi-même, de ce sous-titre, on trouvait ça très vendeur, et il s'est avéré à l'étude, ensuite, que c'était encore 10 fois plus vrai que ce qu'on avait imaginé. Et donc, c'est de cela que je vais vous parler ce soir. Et vous allez voir aussi que la vie de Vauban, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et je vais vous emmener faire un petit voyage, puisque pour écrire un livre comme celui-là, Vauban, l'inventeur de la France moderne, il y a deux solutions. Soit on travaille en bibliothèque, c'est nécessaire, soit on travaille grâce aux bibliothèques numériques, et là c'est merveilleux, c'est ce qu'on fait en permanence aujourd'hui, mais, il faut aller aussi sur le terrain. Aller sur le terrain, ça veut dire voir les fortifications de Vauban, ça, c'est facile, il suffit d'aller en vacances quelque part, il y a toujours eu, ça c'est sûr. En revanche, aller voir où Vauban était né, aller voir où Vauban avait passé sa jeunesse, c'était pour moi extrêmement instructeur parce que j'ai compris ce personnage. Vauban, il est né dans cette maison. Il est né d'une famille de gentilshommes, mais c'est la famille d'un fils de cadet de famille. Donc, vous avez signé à l'époque, hein, l'aîné récupérait la propriété, le second était militaire, le cadet était curé, enfin, ce genre de. Les derniers étaient mal servis. Vauban, il n'a pas de chance. Il naît dans une famille désargentée, qui était riche précédemment, vous allez voir tout à l'heure, mais tout l'esprit y est. Et donc, il connaît cette situation tout à fait paradoxale de recevoir une éducation de jeune aristocrate. Son père lui apprend à tenir une épée. C'est un excellent cavalier. Il paraît même qu'il sait nager. Je vous en reparlerai tout à l'heure parce que j'ai des doutes sur la question, mais ça a beaucoup joué dans sa carrière, cette histoire de natation. Mais en même temps, l'éducation, elle se limite à cet aspect strictement humain. L'aspect scolaire, ce sera quoi ? Eh bien, mon Dieu, ce sera le curé du village, et puis ensuite, ce sera le collège d'à côté, mais pas grand-chose. En revanche, c'est un garçon qui a un bon sens insensé, c'est une intelligence de toute évidence exceptionnelle, ce qui fait qu'il se retrouvera un jour, tardivement certes, mais il se retrouvera un jour quand même maréchal de France. Alors, quand j'étais sur les traces de Vauban, j'ai passé dans cette forêt, et qui, cette image est tout à fait révélatrice de ce qu'est le Morvan. Je ne sais pas si vous connaissez le Morvan. C'est une montagne étrange, c'est pas très haut, mais il y existe, tenez-vous bien, un télésiège pour faire du ski en hiver. Maintenant que le climat change, ça ne marche plus comme avant, mais le club alpin français a installé ça au lendemain de la guerre pour que les Parisiens alpinistes puissent s'entraîner au ski de randonnée pas trop loin de Paris. Le Morvan, c'est une montagne qui est très rude. En fait, les perturbations atlantiques qui viennent toucher la Bretagne sont ensuite arrêtées par le Morvan, ce qui fait que ça nous fait du vent, de la pluie, de l'humidité, en hiver de la neige. Climat rude. Mais le plus important n'est pas là. Ce climat, il est, je vous dirais, c'est le Breton qui parle là, il est prévisible. Quand vous savez regarder le ciel, quand vous savez d'où souffle le vent, la température, l'humidité, de l'air, tout ce que vous sentez, vous savez comment le vent, le temps va tourner. Vauban, il est né là-dedans. Ça n'a l'air de rien, mais le fait d'avoir passé sa jeunesse dans ce milieu de nature sauvage profonde lui permettra, adulte militaire, de cerner des phénomènes que moi je trouve tout à fait stupéfiants. Vauban, né dans le Morvan, comprendra très très vite, une fois à Saint-Malo, les questions de courant, de marée et la façon d'installer des forts là où il faut pour protéger une zone portuaire. On aurait pu penser que Saint-Lamarin pouvait faire ça, ben non. Vauban était capable de le faire. Le même Vauban va se trouver à devoir fortifier d'urgence les Alpes. On va le voir en fin de saison fréquenter des hautes vallées avec le risque d'être pris par la neige. De toute évidence, il maîtrise ce qu'il fait ou il sait s'entourer. Donc, notre personnage de Vauban, vous voyez, il prend là une dimension humaine éminemment sympathique. Alors, une autre image pour vous montrer aussi la famille de Vauban. Vauban se marie donc. Il épouse donc Jeanne Donnay, dame d'Épiry. Et voilà où vit la famille de sa femme. Ce sont des aristocrates du Morvan. C'est une ferme fortifiée, rien de plus. Et donc, lorsque Vauban se mariera, la première résidence seigneuriale qu'ils auront, c'est ça. Ça se trouve à une trentaine de kilomètres dans le sud de Vézelay, sur la face ouest du Morvan. Voilà le type de paysage qu'il y a aujourd'hui, c'est la culture, hein, c'est de l'herbe fourragère. Mais c'est cette ambiance-là, des collines à perte de vue. Et Vauban va passer sa jeunesse à courir là-dedans, avec les gamins du coin. C'est un petit, il fréquente les petits paysans, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît tous les arbres par cœur, il sait reconnaître les traces d'animaux. C'est un homme de la nature. C'est le fait qu'il soit un homme de la nature qui lui permettra un jour aussi de monter des dispositifs de défense extrêmement performants, parce qu'il ne saura pas où, par où l'adversaire peut passer. On le verra tout à l'heure. Alors maintenant, comment donc Vauban va passer de ce statut donc de gamin qui vit dans cette nature profonde des vallons du Morvan au devant de la scène? C'est en fait la rencontre avec Condé. Condé, le grand Condé, le vainqueur de Rocroi, qui était gouverneur de Bourgogne, à la suite de son père. Excellent gouverneur, la Bourgogne tout entière avait une très très grande dévotion pour les Condés. Et où vous soumettez cet épisode de l'histoire de France qui s'appelle la Fronde des Princes, qui a suivi la Fronde des parlementaires. Condé a un peu abusé, a été emprisonné, a été libéré, il a décidé de se venger et il fait grande tournée sur ses terres de Bourgogne pour enrôler des hommes dans une armée qui va s'opposer à l'armée royale. Il réunit donc toute la noblesse du coin et parmi cette noblesse, évidemment, arrive Papa Vauban et Fiston. Et donc Papa Vauban présente le petit à M. de Condé, voilà, c'est pour ça qu'on a donné un rêve, il avait 17 ans à l'époque, Vauban. Condé lui aurait répondu, les garçons de l'avenir. Je pense qu'il a dû dire quelque chose comme ça, soit pour faire plaisir, soit en se disant que de toute façon ça n'engageait à rien. Le fait est que Vauban part avec Condé se battre contre l'armée de Louis XIV. Alors c'est très amusant parce que pendant un bout de temps, notamment dans les manuels scolaires qui ont été conçus sous la Troisième République, on s'est beaucoup choqué que Vauban ait pu commencer sa carrière militaire en se battant contre le roi. Maintenant, la notion de France est une chose quand même relativement récente, et à l'époque, pour un gamin du Morvan, que pouvait bien vouloir dire un roi qui était encore un gamin et un État qui était gouverné par un certain Mazarin? Ça ne voulait strictement rien dire. En revanche, Condé s'en connaissait. Donc si Condé disait « Venez avec moi, j'ai besoin de vous », et bon, suivez Condé, c'est tout à fait logique. Alors la suite de l'histoire, en revanche, va être assez cocasse quand même, mais je vais vous le raconter ensuite parce que je voulais vous montrer là ce qu'était quand même Vauban. Vous voyez, ça c'est sa cuirasse de siège, elle se trouve dans le château de Bazoches. Et vous voyez ici, ça, ce sont des impacts de balles de mousquet. Je vais vous parler tout à l'heure en détail de la méthode d'approche d'une forteresse ennemie. Il s'agissait de creuser des systèmes de tranchées, on va en parler tout à l'heure. Mais pour savoir comment le faire, il fallait aller très très près. Les ingénieurs militaires, le taux de mortalité était énorme. Quand on voit la cuirasse de Vauban, on va bien comprendre pourquoi, en tout cas lui, il n'avait pas peur d'aller au plus près pour comprendre ce qu'il fallait faire. Alors, je vais vous raconter tout de suite, puisque nous avons l'image sous les yeux, ce sera plus efficace, la méthode, puisque vous avez vu donc cette image, et vous vous interrogez peut-être, donc je vous explique tout de suite, et après je vous raconterai comment Vauban est passé dans le camp de Louis XIV, parce que c'est une histoire pittoresque. La technique donc d'assaut consiste, puisqu'on a une forteresse qui est d'ailleurs très bien faite avec un système de bastion en redans, ce qui fait que si on approche par tous les côtés, on se fait tirer dessus, il faut réussir à approcher le plus près possible en étant à couvert. Alors pour ça, la méthode est très simple. Depuis ici, très très loin, vous creusez une tranchée comme ça, à partir de cette tranchée, vous avancez en S petit à petit, ensuite vous installez des canons ici, pour vous défendre de l'arrière, des fois que, et là, pour attaquer devant. Une fois que vous êtes très proche, vous tirez un coup de canon le plus longtemps possible vers le bout du bastion, jusqu'à ce qu'il s'effondre, et à ce moment-là, les ruines de ce bastion font une rampe, et vous montez à l'assaut. Ça faisait des dizaines, des centaines de morts. Vauban a donc mis au point une méthode, on y verra tout à l'heure plus en détail, pour approcher le plus près possible sans perdre, et ensuite attaquer seulement au dernier moment. Mais pour faire profiter les troupes royales de cette astuce, comment donc Vauban s'y est-il pris? Eh bien en fait, il ne sait pas qu'il s'y est pris, il a été pris. L'histoire est la suivante. Alors, ça se situe quand même sur la fin de la Fronde. Côté Condé, on sait que cette affaire va tourner mal, même si Condé va chercher ensuite l'appui des Espagnols. C'est la fin. Donc ceci explique aussi peut-être cela. Le fait est qu'un jour, Vauban se trouve à cheval, avec une patrouille en train d'approcher les troupes royales pour voir ce qui se passe, ils font reconnaissance. Pas de chance. Ils sont pris par une patrouille plus importante, qui les encercle. Et là commence un véritable western. Vauban, qui est un excellent cavalier, comme je vous l'ai dit, pique des deux, et à l'astuce suprême de s'engager dans un sentier où il ne peut y avoir qu'un seul cheval de front. Il est devant, poursuivi donc par des soldats des troupes royales qui sont évidemment en fil indien. En tête de ces troupes se trouve un lieutenant Et là, vraiment, et nous sommes dans les caisses, ici, ça tombe très très bien pour le raconter, fait brutalement une volte sur place, tout en sortant son pistolet, et le braque sur la tête du lieutenant en disant « Je veux bien d'en rendre, mais avec les honneurs et avec les armes. » On l'amène donc en grande cérémonie au camp royal, où il se rend en grande cérémonie. L'histoire veut que Mazarin était là, et Mazarin a tenu à rencontrer ce personnage exceptionnel, et suivant les termes qui figureront plus tard dans l'histoire officielle de Vauban, Mazarin aurait confessé que le jeune Vauban l'aurait persuadé de venir travailler, de venir combattre avec les troupes royales. Bien. Là, ça va se passer très vite ensuite. Ça va se passer très très vite, parce qu'on va se retrouver au siège de Saint-Mesnil-Wood. Et là, Vauban va être capable, alors qu'on n'arrive pas à prendre cette forteresse d'assaut, de traverser à la nage la rivière pour trouver un autre endroit où attaquer, et on va attaquer en prenant la place de Saint-Mesnil-Wood. Et manifestement, à l'époque, on en a beaucoup parlé. Alors, ça, c'est l'histoire officielle. J'ai quelques inquiétudes quand même sur cette affaire, parce que où Vauban aurait-il pu apprendre à nager dans le Morvan? Il y a bien des rivières, c'est un peu rapide. Il y a bien les lacs de retenue qui servent au flottage du bois, je veux bien. Mais à l'époque, personne ne savait nager. Gageons qu'il ait traversé la rivière et qu'il ait eu le pied, qu'il ait fait sous le feu de l'ennemi. Mais c'était beaucoup mieux de dire qu'il devait faire la nage. Mais voilà pour l'histoire officielle. Mais ce qui montre aussi que Vauban est un personnage qui est bien aimé, puisque on raconte, on exagère un peu les circonstances le concernant. Maintenant, revanche sérieuse, vous êtes venu pour que je vous parle de l'art militaire de Vauban. Nous y voici. Alors, petit cours de fortification. Reprenons les choses au Moyen-Âge. Nous avons le château fort qui se caractérise en fait par ses remparts qui sont rectilignes, soutenus par des tours qui sont rondes parce que lorsqu'on inventera le canon, ça fait rebondir un peu les boulets. Et puis on a des douves autour. Tout ce système va se trouver, et l'expression est bien choisie, battu en brèche, par l'invention d'artillerie, puisque en Espagne, les rois catholiques vont reprendre aux Arabes qui détiennent toute l'Espagne, ils vont rattaquer toutes les forteresses les unes après les autres, en déménageant une armada de canons terribles, ils vont prendre leur temps, mais pas une fortification ne résistera au canon. Arrive donc le moment où il faut absolument faire autre chose. Et on arrive à la Renaissance. Je n'ai pas dit Vauban, j'ai dit à la Renaissance. On arrive à un nouveau principe de défense. Plus question d'avoir de hauts remparts, puisqu'ils ne résistent pas aux boulets. On fait tout au contraire des pentes de terre. Si vous avez en tête des citadelles, comme par exemple celle du Palais à Belle-Île-en-Mer, je pense à Maubeuge aussi, je pense à Gravelines, vous n'avez aucun mur droit, vous avez toujours des grandes pentes. Et en fait, ce ne sont pas des remparts, ce sont uniquement des terrassements. C'est de la terre, les pierres ne servent qu'à tenir la terre. Si vous tirez au canon là-dessus, dans le pire des cas, un peu de cailloux explose et l'obus s'enfonce dans la terre. Donc l'artillerie ne peut pas faire grand-chose, sauf éventuellement à taper vraiment dans la pointe d'un bastion comme ça dans son redan. L'autre astuce consiste à avoir des grandes zones absolument nues là, où tout assaillant qui s'expose sera tiré comme un lapin avant d'avoir parcouru 100 mètres. Et pour terminer, on lui fait un grand fossé qu'il n'aura pas traversé. Les assaillants sont obligés d'attaquer à découvert. C'est tout le principe de ce qu'on appelle aujourd'hui les fortifications à la Vauban, avec le système en étoile. Pas de chance. Ça n'est pas du tout Vauban qui a inventé ça. Ces photos ont été faites au Vatican, dans la galerie des cartes géographiques, galerie qui a donc été conçue entre 1580 et 1583, c'est-à-dire 75 ans avant la naissance de Vauban. Et là, vous avez donc tout le système en étoile que l'on attribue à Vauban, le système de bastion qui amortit les boulets, on le voit très nettement. En fait, ça existait déjà, grosso modo, depuis 1450, et ça avait été inventé en Italie. Vauban lui-même, en réalité, va développer les travaux d'un certain Jean Hérard, qui était originaire de Bar-le-Duc et qui était donc ingénieur militaire sous Henri IV. Vauban va apprendre le métier avec De Clerville, qui était son maître avancé et qui était le haut responsable des fortifications, mais très rapidement, l'élève dépassera le maître. Alors, ayant dit ça, oui, je vois une espèce de grand silence, là vous êtes déçu. Non. Vauban, à partir de ça, a développé considérablement ce principe, il l'a amélioré, et vous allez le voir, je vais vous l'expliquer en détail, il l'a amélioré de façon beaucoup plus subtile que des questions de simple fortification. Alors, pour continuer dans le système de fortification de Vauban, vous voyez ici le plan de Maubeuge et l'utilisation de la Sambre, de la rivière, pour faire un système défensif. Ça, c'est une chose qui n'existait pas avant Vauban. Ce système d'hydraulique défensive, Vauban l'a copié aux Hollandais. On connaît la campagne de Louis XIV vers la Hollande, qui est stoppée parce que les Hollandais décident de noyer leur pays. Ils ouvrent les vannes des polders et noient le pays pour que l'armée de Louis XIV ne puisse pas les prendre. Et Vauban, à l'époque, est stupéfait de la maîtrise que ces gens ont de l'écoulement de l'eau. Ça va séduire tellement Vauban qu'il l'utilisera pour des défenses. Mais celui qui, un jour, sera capable de faire fonctionner le canal du Midi, qui avait été conçu par Riquet, bien avant, mais qui s'était ensablé parce que l'eau coulait trop vite ou pas assez vite, ce sera Vauban. Encore un travail de Vauban. Là où Vauban va être tout à fait performant, c'est dans le sens du détail qui sera le sien. Voici une planche d'un ouvrage d'instruction militaire à destination des ingénieurs. Tous les outils sont listés, nommés, calibrés. On sait qu'une brouette, c'est cette petite chose-là, mais on sait aussi qu'avec ces mesures-là, on sait exactement combien de terre on peut transporter en une brouette, on sait combien, à quelle vitesse on parcourt 100 mètres avec une brouette contenant d'un. Vauban chiffre tout. Et s'il peut tout chiffrer, c'est parce qu'il part depuis le détail le plus infime, qui sont donc les systèmes de gabions qui permettent de faire des créneaux, les fascines qui permettent de tenir la terre, la taille des piquets, tout, absolument tout est prévu. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, Vauban sera capable de dire, pour prendre telle place forte, il me faut tant de jours. Arrivera le moment où il sera capable de dire, une forteresse peut tenir X jours maximum, donc il faut tant de nourriture, tant de munitions, mais pas plus, parce que si elle tombait, la nuit les prendrait. Vauban, c'est l'homme du chiffre. La première chose que fait Vauban, et on va y passer tout de suite en parlant de l'organisation de l'armée, la première chose que fait Vauban, c'est de passer d'une époque où on ne connaît que le qualitatif, c'est-à-dire l'énergie, le courage, la bravoure, l'efficacité, il passe au quantitatif. Tant d'hommes feront telle chose en tant de temps. On se déplace de telle distance en tant de temps. Si je dois déplacer trois canons d'ici à là, ça demande X chevaux, etc., etc. Avec Vauban, tout devient chiffré. Et on arrive à une logique qui s'appellera la sueur épargne le sang. Plus on travaille à la préparation d'un siège, plus il sera facile de prendre la place et moins on perdra d'hommes. Vous allez me dire, Vauban humaniste, c'est merveilleux. Pas seulement. Vauban avait une grosse inquiétude, et c'était le premier à avoir cette inquiétude. C'est le premier qui s'est posé la question, avec les guerres dans lesquelles Louis XIV nous embarque, est-ce que nous sommes bien sûrs d'avoir toujours assez de Français à mettre avec un fusil entre les mains, ou à tenir les poignées de la charrue pour cultiver les champs pour nourrir ceux qui se battent? À cette question, à l'époque, personne ne pouvait répondre. Et lui a mis en place les outils pour essayer d'apporter une réponse. Alors justement, l'armée de Louis XIV et Vauban. Vauban, comme je viens de vous le dire, a compris que la guerre était un état normal du règne de ce roi. Grosso modo, la règne de Louis XIV, c'est deux tiers de guerre et un tiers de paix. Donc, il ne se trompait pas. Et comme on s'était mis, bon, la France s'était mis, l'Europe entière à dos, ça pouvait durer. Vauban va aller très très loin. Je vous ai dit tout à l'heure que Louvois lui a commandé des études sur l'organisation de l'armée. Ça a été très très loin parce que ici je vous ai sorti un exemple qui est le fusil de Vauban et la baïonnette. Ça n'a l'air de rien, c'est encore une invention de Vauban, ça. La baïonnette à douille. La baïonnette qui permet de tirer tout en ayant la baïonnette. Parce qu'avant, la baïonnette c'était une espèce de couteau qu'on enfonçait dans le canon du fusil. Du coup, le fusil ne peut plus fonctionner. Évidemment, lui, il a l'idée d'avoir une pièce métallique, une douille qu'il prenait à l'extérieur, ce qui permettait en plus de tirer. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. À l'époque, un régiment se compose de mousquetaires et de piquiers. Les piquiers tiennent une immense lance. Leur travail, en fait, c'est de se mettre un genou à terre, la lance plantée vers l'avant, ce qui fait que si une charge de cavalerie, elle vient s'empaler véritablement sur toutes ces lances tendues vers elle. Et pendant ce temps-là, les mousquetaires derrière courent le feu. Vauban a cette idée de concevoir un fusil de forme de mousquet qui sera assez long, doté d'une baïonnette, ce qui fait que du coup, chaque soldat sera dans le même temps piqué et mousquetaire. Ça n'a l'air de rien, mais ça révolutionne complètement la stratégie, la tactique, ça révolutionne complètement l'organisation de l'armée elle-même. Ce n'est qu'un détail, mais en fait, Vauban va travailler à tous les niveaux comme ça. Il va même aller plus loin. Il va se dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème, l'État français sera en guerre en permanence. La guerre devient un État social normal. Le militaire et le civil doivent vivre ensemble. Cela veut dire que lorsqu'on enrôle des gens dans l'armée, il faut qu'ils sachent qu'ils aient une chance de retourner à leur famille. Il faut même leur donner des permissions assez vite avant qu'ils ne soient tentés d'actes de désespoir ou de désertion. Ça va même encore plus loin. Louvois conçoit les Invalides. Vous connaissez l'hôtel des Invalides qui était destiné à recevoir soit des soldats blessés, soit des vieux militaires à la retraite. Œuvre sociale, s'il en est, mais Vauban s'y oppose. Il dit, mais non, mais c'est complètement ridicule cette approche. On met en spectacle aux Parisiens des soldats qui n'ont qu'un bras, une jambe si ce n'est pas deux, qui n'ont rien à faire, qui passent leur journée à attendre, entre deux repas. Non, ce qu'il faut, c'est donner des retraites à ces gens, leur donner des sous pour qu'ils rentrent au village. Le village, du coup, aura des liquidités. Si je vous parle maintenant économie moderne, nous pourrons relancer la consommation. C'est tout bête. Et puis les jeunes qui verront ces vieux se diront, ben oui, finalement, faire l'armée, c'est pas si idiot que ça, parce qu'au bout de X années de service, on touche des sous à ne rien faire et on vit heureux. Vauban était partisan d'inventer une retraite pour les militaires. Il a repris toute l'organisation de l'armée avec ce genre d'état d'esprit. L'accès au grade, c'est-à-dire décider qu'il n'y avait plus d'équivalence entre le grade et le quartier de noblesse, quel que soit le quartier de noblesse, il fallait avoir appris à être officier. Ça, en revanche, il ne le fera pas passer. Il aurait bien voulu, mais ça passera. Donc, vous voyez que chez Vauban, on a toujours cette interaction entre le civil et le militaire. Si on pousse la réflexion plus loin, concernant cette interaction, ça va quand même très très loin. Pardon. Voici un frontispice des oisivetés, que c'est des ouvrages que vous m'avez écrit, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui montrent en fait comment, dans le militaire, on est obligé de compter quand même. Et voilà comment Vauban a vu les choses. En tant que défenseur de place, d'abord, parce qu'on le verra tout à l'heure en tant qu'attaquant de place, en tant que défenseur de place, il se rend compte que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une forteresse pouvait tenir un certain temps. Donc, on y met une telle somme, telle quantité de munitions, on standardise les munitions, tant qu'à faire, c'est aussi lui qui a songé à ça, que toutes les armes puissent tirer avec les mêmes balles, c'est bête, mais ça aide. Et puis surtout, il se dit, mais, puisqu'il faut stocker du grain pour faire de la farine et donc du pain, on peut aller plus loin que le simple stockage en vue d'une défense. Si l'armée achète ce pain en époque de surproduction, pour donner des boissons très riches, on achète ses provisions à pas cher. Donc économie et on stocke. Mais maintenant, imaginons qu'en période de paix, on ait un mauvais été, une disette. Eh bien, à ce moment-là, ce blé qui était disponible pour un siège, on le revend à la population à un prix normal. Et du coup, à travers ça, nous avons un Vauban qui est l'inventeur de l'économie dirigée. C'est-à-dire le passage du stratégique à l'économique. L'État est là pour empêcher les hausses et les baisses de prix en fonction des surproductions et sous-productions. On étale. C'est le dirigisme économique venu, en fait, d'un point de vue militaire à l'origine. Alors maintenant, vu en tant que l'attaquant de place, vous avez vu donc tout à l'heure les tranchées, les travaux que ça représente, vous imaginez éventuellement les matières premières et les matériaux qu'il va transporter à une époque où les routes en France étaient dans un état absolument déplorable. Vauban a très vite compris que les canaux étaient la meilleure façon de transporter les banderoles. Ça va sans vrai d'ailleurs. Et donc, il améliore le plus possible le réseau de canaux du nord de la France, où je vous montrerai tout à l'heure pourquoi il y avait besoin de beaucoup de forteresses. Et très vite, il se dit, mais ces canaux, à but stratégique, en fait, si je maille la France, le territoire entier de canaux, ça permet de faire circuler des marchandises. Mais c'est, par exemple, se dire que les pays du Nord qui ne connaissent ni l'huile ni le vin peuvent en avoir, et les pays du Sud qui font beaucoup moins de blé, par exemple, pourront en avoir. Les marchandises vont pouvoir circuler dans toute la France. Et au moment-là, ils se trouvent à inventer rien moins que l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, lorsque à l'époque de Napoléon III, on finira d'aménager les canaux et on développera le chemin de fer pour la France, ce sera le même travail que celui que Vauban a fait quelques siècles auparavant en développant les canaux. Alors, Vauban devient une compétence rare en matière d'hydraulique militaire, ce qui va l'amener, je vous en reparlerai tout à l'heure, à s'occuper de la question de l'alimentation des fontaines de Versailles avec un chantier absolument fou, extrêmement complexe, que seul un homme comme lui pouvait réussir. On y reviendra tout à l'heure, mais je voulais vous montrer comment on passe du travail militaire à la mise au point d'un réseau de canaux destiné à apporter de l'eau aux fontaines de Versailles, sachant qu'on part, on part ici de l'heure aux environs de Chartres pour se retrouver à Versailles ici. On en reparlera tout à l'heure. Je vous ai donc montré un Vauban aménageur du territoire, si j'ose dire. Maintenant, on va passer à l'international. Vauban a parfaitement compris la problématique des guerres de Louis XIV. C'est un cercle vicieux infernal dans lequel le royaume est entré. Il n'en sortira pas, et pour plusieurs raisons. En fait, Louis XIV se trouve ennemi de l'Europe entière pour deux raisons. La première, c'est un expansionnisme territorial qui inquiète tout le monde, et une autre question, c'est la question religieuse. Je vais commencer par là parce qu'elle a une importance absolument énorme. Donc on sait que Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes. La conséquence, c'est que tous les pays européens qui sont tenants de la religion réformée vont ajouter au ressentiment de cet homme qui veut agrandir son territoire, le ressentiment de cet homme qui veut imposer sa façon de considérer la religion. Donc, raison de plus pour attaquer la France. Et une France terriblement affaiblie par cette révocation de l'édit de Nantes, parce que ce que Louis XIV n'a pas vu, c'est que tous les officiers de marine, ou presque, sont protestants. La plupart des ingénieurs militaires, des entrepreneurs avec qui travaille Vauban sont protestants. L'essentiel des commerçants de la vallée de la Loire sont protestants. C'est tout simplement toute l'énergie technique et financière de la France qui est détruite sur une décision qui est en plus assez absurde, puisque on croit savoir que la révocation de Nantes, c'était une façon de, pour Louis XIV, se sentant vieux, d'économiser quelques années de purgatoire ou quelque chose de ce genre, essayer de se refaire une virginité, si j'ose dire. Vauban sera le seul à oser dire à Louis XIV, Majesté, vous faites une bêtise énorme. Ce sera le seul à oser l'écrire. Alors, pour être plus précis quand même, Saint-Simon a écrit, mais c'était publié un siècle plus tard seulement. Donc ça n'a pas d'importance. En revanche, je peux vous dire que Bossuet, La Fontaine, La Bruyère, Racine, tous ces grands esprits, ont été d'une flagornerie. On félicitait Louis XIV pour cette décision, c'est juste pitoyable. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que la France, avec l'Europe entière contre elle, elle est condamnée à terme. Vauban sait bien qu'il a l'oreille du roi, mais on voit mal quand même comment il pourrait le persuader d'arrêter ses guerres. Il réussit tout de même à lui dire, écoutez, Majesté, conquérir les territoires, c'est assez facile, on l'a fait. Conserver ce qu'on a pris, c'est plus compliqué. Et c'est même ingérable. En clair, ce que je vous propose, décidons deux frontières de la France qui seront des frontières pérennes avec un système défensif efficace. On appellera ça la ceinture de fer. On l'appelle plus couramment le précaré. Et ça procède là d'une technique de défense extraordinaire. Là où nous avons une absence de frontières naturelles, c'est-à-dire le nord-est de la France. Nous avons donc de la Manche ici, à grosso modo aux Ardennes, un territoire où, à part quelques rivières qui peuvent faire frontière, le terrain est vide. L'idée de Vauban est de concevoir deux lignes de fortifications. Des fortifications qui sont à distance suffisamment rapprochées les unes des autres pour que l'une puisse en permanence apporter assistance à une autre. Et il y a deux lignes. Il y a deux lignes, pas pour le cas où la première, c'est vrai. Il n'est pas question de vouloir essayer d'arrêter l'ennemi. Le but de la manœuvre, c'est de le laisser, par exemple, passer entre l'île Tournai Condé ici, se retrouver devant Béthune à Rasse-Douai, avec une ligne de colonne qui s'est bien allongée, un ravitaillement qui n'est plus possible, et du coup, un corps d'armée qui attaque qui se trouve déjà encerclé. Cette armée encerclée est une autre solution de partir sur les côtés où elle sera attaquée par de chaque côté les lignes. Et en fait, le Nord tiendra comme ça assez longtemps et assez bien. Donc ça, c'est déjà, je trouve, très fort. Là où il existe des frontières naturelles, je dois vous avouer que je connais bien la France en moindre détail, parce qu'en tant que journaliste, je fais beaucoup dans le tourisme de nature. Je connais par cœur les montagnes françaises, je connais par cœur les côtes françaises. Quand je vois où Vauban a réussi à placer ses citadelles, c'est juste du génie. Parce qu'à notre époque, on possède des cartes. Donc c'est très facile, en regardant des cartes, de comprendre comment fonctionnent des jeux de vallées, des cols franchissables ou non. À l'époque, la génération des Cassini, des grands cartographes, n'existe pas encore. On dispose de très très peu de matériaux papier pour analyser une situation. Or, en quelques mois, Vauban sera capable, sur les Alpes, d'installer là où il faut, je pense aux citadelles de Guillestre notamment, à un point précis d'une vallée précise, l'endroit où, de toute façon, l'ennemi est obligé de passer. Et donc, c'est une économie de moyens considérables dont il bénéficie, qui lui permet, en bloquant un seul point, de bloquer tout un ensemble de vallées. Alors, le voir sur des cartes, c'est assez facile, mais là, j'ai préféré vous le faire du point de vue maritime, parce que c'est plus rapidement compréhensible. Vauban, en fait, son génie, lorsqu'il s'agit de défendre une zone, ce n'est pas tant l'architecture de chacune des citadelles, c'est ce qu'on appelle le système défensif. Pour vous donner une échelle, grosso modo, entre Rochefort qui est ici et Lideré, on a 40 km là. Ce sont donc un ensemble défensif qui est destiné à protéger Rochefort. Rochefort, c'est l'arsenal militaire, c'est là que sont construits les bateaux de guerre. C'est donc assez haut sur la rivière, de façon à ce qu'aucune flotte militaire ne puisse monter à l'assaut et attaquer. Ça, c'est sûr, la Charente n'est pas fréquentable. Mais Vauban se dit que les Anglais et les Hollandais, parce que c'est les Anglo-Hollandais, notre adversaire de l'époque, ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas essayer de remonter. Ils vont débarquer les troupes là où c'est facile. Par exemple, sur l'île de Ré, par exemple, sur Oléron, ou bien dans les fonds vers Brouage, ici, et un corps d'armée va attaquer par la terre. Donc, il faut qu'aucun bateau ne puisse approcher. Comment pourrait-on approcher l'estuaire de la Charente, dans le Perfil d'Antioche? Un fort sur l'Idex, une batterie sur Boyerville, pardon, j'y reviens. Tout, voilà. Des batteries sur la pointe de Foix, perdu d'Antioche, infranchissable. Perdu de Maubuisson, étroit, courant très fort, mais Vauban, c'est que les Anglais n'ont peur de rien. Ce sont des marins vraiment casse-cou quand il le faut, ils peuvent être attaqués par là. On construit un fort de voie, que vous avez ici en photo, avec juste, regardez, c'est pas grand-chose, hein. Il y a une douzaine de canons là. Et bien ça suffit à empêcher une flotte de passer. Et puis s'il voulait se serrer du côté d'Oléron, il y a le château d'Oléron qui est encore plus protégé. Voyez donc quoi, avec juste quelques citadelles, eh bien l'ensemble de cette zone est protégé. Alors vous connaissez tous Fort Boyard. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter son histoire. À l'époque de Vauban, il y avait quand même un trou dans la défense. Et ce trou, il était là. Les canons qui pouvaient tirer de l'index, et ceux qui pouvaient tirer de la batterie qui était sur la pointe de Maubuisson, au milieu, il y avait grosso modo 500 mètres à 1 km où les boulets tombaient dans l'eau. Donc il y avait un couloir qui était fréquentable au milieu. Il fallait donc trouver quelque chose, et l'idée qui est venue, ça a été de faire une île artificielle, c'est-à-dire de couler des montagnes et des montagnes et des montagnes de rochers les uns sur les autres, jusqu'à ce que ça dépasse de l'eau et qu'on puisse y construire un fort. Ça a commencé, non, Vauban a proposé la chose, mais c'était réalisable. Finalement, Bonaparte a insisté, sous Napoléon, ça a été réglé, mais pas vraiment suffisamment, et c'est aux approches du Second Empire qu'on a enfin réussi à terminer Fort Boyard. Le seul problème, c'est que personne n'avait pensé à ce moment-là que les canons, depuis M. de Guimauval, avaient bien changé et qu'ils étaient capables de tirer beaucoup plus loin qu'avant. Donc le Fort Boyard ne servait à rien du tout et il n'a jamais reçu de canon, mais c'était juste. Mais personne n'y avait pensé. C'est juste une petite plaisanterie bête des Gambiens. On ne pense pas toujours à tout. Pour en revenir à Vauban et à ses systèmes défensifs et ses fortifications, l'ensemble de ces travaux a été théorisé sur une idée de Louvois, le ministre. Et sinon que ça vous le connaissez, ce sont les fameux plans reliefs qui se trouvent donc exposés pour la plupart d'entre eux aux Invalides. Je vous recommande la visite et surtout en vous inscrivant et visite guidée, c'est une fois par mois le dimanche matin. C'est fait par des jeunes guides conférenciers qui ont tout compris de l'époque et qui racontent ces fortifications avec un luxe de détails très fabuleux. Donc, sous Louvois, on conçoit ces plans qui servent à plusieurs choses. D'une part, à apprendre aux ingénieurs militaires, aux officiers à défendre une place, mais aussi à les attaquer en ayant de manière extrêmement précise tous les angles de tir, bien plus que sur le papier. Ces plans sont à l'échelle du 600e. Et ils sont d'une précision diabolique puisque la végétation est fidèle. Là où il y a de la vigne, on fait de la vigne. Là où il y a des pommiers, ce sont des pommiers. Et il y a un code suivant lequel, si j'ai bonne mémoire, on a décidé que c'était représenté au printemps. Donc toutes les maquettes sont représentées au printemps. Il y a une unité. Et quand vous visitez le musée des plans reliefs, vous verrez des ateliers où on fabrique des petits arbres avec du fil de fer, avec du tissu soit coupé au ciseau, comme quand on coupe le persil pour mettre dans les salades. C'est tout à fait étonnant. Et puis surtout, on voit des systèmes comme celui donc de Villefranche de Conflans, ici, dans les Pyrénées. Et juste pour la beauté de l'art, parce que le Mont-Saint-Michel n'a jamais été une fortification de Vauban, mais il y a un plan relief du Mont-Saint-Michel qui est proprement hallucinant, avec notamment des façades qui sont démontables pour qu'on voit l'intérieur des maisons et de la basilique. C'est absolument à voir. Excusez-moi, du coup, je reviens maintenant toujours à Vauban et sa méthode de travail. Le château de Bazoches. Vauban, donc, famille ruinée, enfin, famille pauvre, Mais en vérité, famille ruinée, puisque quelques générations auparavant, un Vauban avait possédé, non pas un Vauban, puisque le prêtre, parce que Vauban, c'est le nom du lieu qui se trouve à quelques kilomètres, une ferme fortifiée, donc le prêtre avait pu s'offrir, se construire cette forteresse, ce château de Bazoches. Suite au siège de Maastricht, que Vauban fut capable d'emporter en un temps record, Louis XIV avait été émerveillé et apporta une gratification à M. de Vauban, une gratification suffisante pour qu'il puisse racheter le château de famille. Louis XIV n'était pas pareil. Ce que Vauban a fait du château de Bazoches est tout à fait étonnant. Si on le visitait sans savoir à quoi ça servait, on pourrait penser que c'était effectivement une résidence merveilleuse. On a une cour avec une écurie pour 60 chevaux, un immense pédiluve. Tout semble fait pour accueillir la noblesse locale ou d'ailleurs. En fait, non, pas du tout. Et je vais vous l'expliquer. Les salles que l'on a au rez-de-chaussée ici, qui sont des bibliothèques, montrent qu'il s'agit peut-être plus d'études que de mondanité. Et quand on passe dans la grande salle du premier étage, ceci n'est pas une salle de bal, une salle de réception, c'est le bureau des ingénieurs. C'est-à-dire que Vauban était, on en reparlera dans le détail tout à l'heure, était en permanence sur le terrain, et des coursiers faisaient en permanence l'aller-retour entre le terrain où Vauban étudiait les situations et faisait des croquis des premières études de plan, et le bureau d'études, dans son château de Bazoches, qui se trouvait précisément à 10 km au sud de Vézelay, où les ingénieurs travaillaient. Et quand on le visite aujourd'hui, on voit cet équipement qui est absolument fabuleux. C'est un rouleau étanche pour transporter en bandoulière des plans. Et ça, ce sont l'ensemble étrié éperon qu'utilisaient les coursiers pour tenir des rimes à cheval très 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 longtemps. En permanence donc, des hommes traversaient la France dans tous les sens, avec au pied ces éperons et sur le dos ces rouleaux de plans, pour des études définitives qui étaient faites à Bazoches, qui revenait à Vauban, qui les corrigeait, ça repartait. C'était donc un jeu de coursier qui passait son temps à traverser la France. Cette notion de centralisation des travaux a quelque chose de tout à fait étonnant. Aujourd'hui, ça paraît presque normal, mais à l'époque, non. À l'époque, c'est tout à fait exceptionnel de faire quelque chose de ce genre, évidemment. La notion de distance pour Vauban va d'ailleurs bien plus loin que le simple territoire. Ce que Vauban comprend très vite, Richelieu l'a compris avant lui d'ailleurs, c'est que l'avenir de la France, la grandeur de la France, de région plutôt, ce n'est pas en Europe qu'elle sera gagnée. Vauban a un exemple sous les yeux, c'est la Hollande. Comment ce petit pays, minuscule, sans culture, sans industrie, peut-il faire pour financer une guerre qui met la France à mal? Ben oui, le commerce, les hélices, tout ça, ça vient de l'autre bout du monde. Et donc Vauban comprend que l'avenir, il sera là. Vauban a compris, il a vu tout ce qui se passait, notamment au Canada. Vauban a vu le travail de Champlain, il a vu le travail qu'ont fait ensuite Marquette. Est-ce que vous imaginez que lorsque l'on arrive au XVIIe siècle, la France occupe toute cette zone-là, jusqu'à la Louisiane, pratiquement de la baie d'Hudson au golfe du Mexique. Elle enferme les colonies anglaises, et les guerres entre la France et l'Angleterre dans l'Amérique du Nord seront dues à ça. Vauban l'a vu. Le roi ne veut pas le voir. Vauban conçoit jusqu'à une flotte militaire légère. Il codifie presque la guerre de course. Ce qui est assez extraordinaire, c'est pas Colbert qui a codifié la guerre de course. C'est Vauban. Vauban qui a même placé de l'argent chez les corsaires malouins. Donc il ne perdait pas de temps, ce garçon. Mais surtout, il a bien compris que l'avenir de la France est au-delà des océans. Alors là aussi, c'est l'extraordinaire modernité de Vauban. Mais dans le même temps, Vauban va être surtout, et c'est à quoi on pense tous, le découvreur de la France profonde. Alors, on me pose régulièrement la question, mais quand même, c'est pas possible, Vauban n'a pas été partout, il y a eu des forteresses. La réponse est si, il a été partout, et même plutôt deux ou trois fois qu'une seule. Alors, je commence par vous dire le vrai, et après je vous parlerai du mythe. Pour ce qui est du vrai, Donc là, le travail, ce n'est pas de moi, c'est de Anne Blanchard, historienne qui a fait un travail hallucinant. Elle a suivi Vauban à la trace dans toute la France pendant toute sa carrière et elle a chiffré. Je vous ai donné quelques chiffres rapides là, mais je vais vous les donner en détail maintenant. Si on prend uniquement les déplacements à moyen et grand rayon, on a 180 600 km, nous sommes précis, pour 57 années de service, soit une moyenne annuelle de 3168 km. Allons plus loin. Si nous prenons en compte le fait qu'un cheval et un bon cavalier tiennent en moyenne 30 à 35 km parcourus par jour, on arrive à un Vauban qui aura passé à peu près une centaine de journées à cheval par an, c'est-à-dire uniquement à se déplacer. Ça fait grosso modo 3 mois pratiquement sans débriller. Allons plus loin. Si on prend certaines tranches de cette, par exemple entre 1668 et 1677, là, c'est 4280 km par an qu'il parcourt. Nous gardons toujours ces 30-35 km quotidien, ce qui veut dire jusqu'à 140 jours en selle par an. 4 à 5 mois passés sur les routes. Cette affaire aura une grande importance dans les travaux de Vauban, on va dire tout à l'heure. Mais pour le moment, la question de la Basterne. Il est dit, et ça fait partie du personnage de Vauban, qu'il se déplaçait dans un équivalent du commande-car tout à fait génial, qui était une chaise à porteur portée par 2 chevaux. Et à l'intérieur de ces 2 cabines, il y avait en fait 2 sièges en vis-à-vis, avec une table rabattante et des rayonnages pour les cartes et documents et livres derrière. Ce qui permettait, dit-on, à Vauban de dicter en route à un secrétaire des remarques qu'il faisait sur le paysage. C'est ce que je raconte dans mon livre en détail. Voilà pour l'histoire. Je n'ai pas eu l'occasion de m'installer dans une basterne. En revanche, j'ai déjà pratiqué des petits attelages. Je peux vous dire que ça bouge de façon effrayante, qu'il y a un trap de vague de mer insupportable. Quant à l'idée de porter sur le papier ne serait-ce que 3 lettres, ça je n'y crois absolument pas. Qu'il ait utilisé la basterne en terrain de montagne, ça c'est à peu près avéré. Il aurait emprunté celle de l'évêque de Digne, je crois, pour les Alpes du Sud. Qu'il ait fait des grandes traversées de la France avec cet objet pittoresque, je n'y crois guère. Mais s'il l'avait fait, comme vous avez vu tout à l'heure la planche d'outils avec les pelles, les trucs et les machins, il aurait forcément théorisé sa basterne et aurait publié des plans de la basterne idéale. Il ne l'a pas fait, ce qui me laisse penser que donc la basterne est un mythe. Ce qu'il y a de à peu près évident en revanche, c'est qu'il utilisait des chaises de poste avec des relais, c'est-à-dire le système de changer d'attelage pratiquement tous les 15 km, ce qui permet de traverser la France au grand galop à toute vitesse en fatiguant un certain nombre de chevaux. On sait aussi que Vauban possédait lui-même beaucoup de chevaux et qu'il les envoyait bien à l'avance sur les zones où il travaillait pour avoir des bêtes fraîches et reposées dont il pouvait changer en permanence. Donc, quand on vous parlera de la basterne, vous serez autorisé à avoir un petit sourire en disant « Oui, bien sûr, la basterne. » Mais non. Bon, maintenant, c'est tellement séduisant comme instrument. Maintenant, je voudrais revenir sur donc, les voyages de Vauban à travers la France. Qu'est-ce qu'il voit ? Il y est tout le temps. D'abord, il voit une décadence constante. Il voit l'appauvrissement d'année en année. Comme il repasse en permanence dans les mêmes endroits, il voit les cultures qui ont changé, il voit les moins de gens dans les champs, il voit les gens qui deviennent étiques. Il finit par constater que les paysans ne cultivent plus leurs terres, parce que tout ce qu'ils cultivent passe en impôts. Trop d'impôts du impôt, c'est bien connu. Il le découvre à l'époque. Et donc, il est vite très inquiet. Et la basterne, si tant est qu'il est utilisé, lui aura servi à voir tout ça et à prendre des notes. Il voit aussi qu'il y a une absence totale de gestion du territoire. Il voit que finalement, on a des fermiers généraux qui sont chargés de récupérer les impôts indirects, qui se servent et qui en prennent plus qu'il n'en faudrait, donc c'est juste ingérable. Il voit des gens qui prennent les charges d'utilisation des canaux. Voyez, encore, on ne peut plus circuler parce que ça coûte trop cher. Il en conçoit une vision de l'État radicalement différente de celle de l'Ancien Régime. Attention, c'est pas encore la Révolution. Hein. Mais il comprend que l'administration française doit être au service de tous. Et ce qui sera l'exemple qui va faire, et dire, déborder le vase, encore un exemple mal choisi parce qu'il s'agit d'eau, ça va être l'affaire de l'aqueduc de Maintenon. Vous connaissez donc Madame de Maintenon. Oui, vous connaissez, bien sûr, je ne vais pas vous raconter l'histoire, les enfants, les récompenses, le domaine Maintenon, etc. Bon, le problème, c'est que donc, on avait à Versailles un problème, un seul, les fontaines. Je vous explique. Lorsque le roi se promenait dans les jardins, il fallait que les fontainiers courent devant et derrière pour ouvrir l'eau quand il arrivait pour qu'au passage du roi, ça gicle, et ensuite, tout de suite, être coupé pour que l'eau, c'est une sorte de shadow, si j'ose dire, continue à couler pour que la fontaine suivante, etc. Bon, on a envie de prendre en avant donc, la machine de Marly pour faire monter de l'eau de la Seine. La machine marche bien, mais les pièces qui sont en bois cassent tout le temps. C'est pas bon. Et Louvois finit par dire, si on regarde bien les reliefs, que des cartes ont été tracées, on pourrait prendre l'eau de l'Eure du côté de Chartres, c'est à 80 km en vol d'oiseau, et par un canal la faire venir à Versailles, et là, on aurait de l'eau. Très bien. Le seul problème, c'est qu'il y a une vallée à traverser, à Maintenon. On appelle Vauban, qui était en train de travailler sur les forteresses du nord de la France, qui avait vraiment autre chose à faire. Ça commençait à menacer là-haut. On l'appelle d'urgence. De quoi s'agit-il? On lui expose le problème de Maintenon. Alors Vauban, le loyaliste sauta, il dit bon, bah, allons-y, hein. Voyons ce que nous pouvons faire. Il fait des calculs, en fait, c'est très simple. 80 km à vol d'oiseau, oui. Ben le chenal à concevoir devrait faire. Ben, il faut prévoir 14 mètres de large, profondeur 2,50 m, et ça fera 100-120 km, parce qu'il va falloir suivre les courbes de niveau. Et puis, la vallée de Maintenon. L'heure arrive comme ça. Grand trou. La vallée, c'est quoi? En plus, c'est la vallée de l'Eure. Donc, il faut faire passer l'eau de l'Eure au-dessus de l'Eure, en quelque sorte. Il faut bon devant ça. À une solution qui est très simple, hein, qui date des Grecs, le système des vases communicants. C'est extrêmement simple. On fait un tuyau d'un côté, le siphon, hein, ça ressort de l'autre, coup de chance de l'autre côté, il n'y a même pas creusé, c'est un peu plus bas, et ça arrive à Versailles. Ah, mais non, ce n'est pas possible. L'eau du roi ne peut quand même pas circuler dans un vulgaire tuyau. C'est au fond du parc de Madame de Maintenon, vous n'y pensez pas. Il faut faire un ouvrage d'art, il faut faire un viaduc. Le viaduc, le voici. Enfin, le voici. Voilà ce qui a été fait. En réalité, le viaduc que vous voyez ici, ça ce n'est que le premier étage. C'était une copie du viaduc, du fameux pont du Gard, avec les deux étages dessus. Donc normalement, si on avait été jusqu'au bout, cette petite chose aurait été dans le paysage à peu près ici, et donc aurait commencé là pour arriver là. C'était de 1 mètre plus haut que les flèches de Notre-Dame. Vauban a essayé de faire comprendre que c'était quand même dispendieux, exagéré. Le chantier, 21 000 soldats qui mouraient les uns après les autres de paludes parce que c'était des marécages, c'était des zones impaludées, comme à Marie-le-Roi l'était aussi. J'allais dire, Dieu merci, la guerre de la ville d'Augsbourg est survenue et a tout arrêté. Donc on en est là, aujourd'hui ça fait un excellent paysage. Je vous recommande de visiter le château de Maintenon parce qu'il y a les plans de détail du viaduc. Ils sont, tenez-vous bien, affichés dans un couloir. Et donc vous entrez dans le couloir et puis vous suivez, vous avez le plan. Et puis l'auteur c'est ça, c'est un truc hallucinant. On trouve encore dans la campagne à côté des traces du viaduc. On les repère sur les cartes au 100 millième, j'étais y voir, ça je ne vous recommande pas, c'est des charges publiques qui ne sont pas très fréquentables, mais ça existe bel et bien. En tout cas, pour Vauban, la chose est entendue, le règne de Louis XIV ne peut plus continuer comme ça. Ça fait déjà longtemps en fait que Vauban réfléchit à tout ça, et que le soir à l'État, puisque vous avez vu le temps qu'il passe sur les routes, soit il dicte à un secrétaire, soit il écrit lui-même, et il écrit tout ce qu'il voit, et analyse des tas de problèmes. De façon systématique, Vauban, lorsque quelque chose ne va pas quelque part, où est le problème? Quantifions le problème. Une fois qu'il est quantifié, y a-t-il une solution possible ou pas? S'il y a une solution, voilà ce qu'on pourrait faire. Du coup, il appelle ça, parce que comme ça, ça l'amuse beaucoup de le faire, il appelle ça les oisivetés. Et donc, un jour, seront réunis sous des gros volumes, qu'on appellera les oisivetés de M. de Vauban, dont je vous donne ici d'ailleurs quelques-uns des plus connus, moyen de rétablir nos colonies de l'Amérique. Là, il analyse en détail tout ce qu'il faut faire pour coloniser l'Amérique. Combien de haches il faut expédier, combien de militaires, surtout combien de moines il ne faut pas envoyer parce qu'il a bien compris que c'était les parasites de la société française, etc., etc. Navigation des rivières, c'est son analyse sur la France quadrillée par des canaux. Et la cochonnerie, ça c'est sublime, c'est une analyse chiffrée. Vous prenez un couple de cochons et vous regardez au bout de X générations de ce cochon combien de tonnes de viande ça aura fait, en analysant dans chaque portée combien on peut avoir de mâles et de femelles, en analysant combien on peut espérer ne pas avoir de pertes de décès, etc. Et ce sont des calculs chiffrés, on croirait un travail d'énarque stagiaire, c'est fabuleux, mais l'idée qu'il avait quand même au bout de tout ça, c'était de démontrer que si on offrait un couple de cochons à chaque famille paysanne française, la notion de dizaine n'existerait plus. Et là, on retourne encore à une économie sociale dirigée, ça va quand même bien plus loin que tout ce qu'on a pu voir en termes de fortification, de défense et autres. On a un Vauban qui devient un véritable homme d'État. Alors justement, il devient un véritable homme d'État. Sur ces vieux jours, Vauban se rend compte que la France est à bout. Elle ne tiendra plus longtemps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les paysans ne cultivent plus parce que l'impôt leur prend tout ce qui a poussé. Donc Vauban arrive à l'idée, mais d'autres l'ont pensé avant lui, qu'il faut un impôt universel. L'impôt sur le revenu universel. Tout le monde paiera cet impôt. Le principe, c'est quoi? L'État met à disposition des particuliers une infrastructure qui leur permet d'avoir une activité économique. Chacun doit participer au financement de cette infrastructure en fonction du revenu qu'il en tire. C'est un peu universel. En France, on arrivera à le mettre en œuvre en 1917 seulement. Et aujourd'hui, ça ne marche pas terrible non plus, paraît-il. Qu'importe. Vauban écrit donc une proposition et la dîme royale, le projet de dîme royale, et ce texte, il le publie. Il ne faut pas oublier que depuis François Ier, tout texte en France peut être publié de la fin d'autorisation royale. Vauban ne donne pas l'autorisation. Or, dans ce texte, il dévoile une chose catastrophique pour la défense nationale, pour employer les termes modernes. Il met en évidence l'état de déliquescence totale du royaume, ce qui lutte par des Anglais, des Hollandais, des Prussiens, des Espagnols, dit la victoire est proche. Voyez dans quoi Vauban a quelques soucis avec le roi. Les textes sont retirés, confisqués. Vauban va décéder un peu de temps après. On a dit qu'il était mort de chagrin. Donc en fait, il traînait une infection pulmonaire depuis des années. Là, il était usé, il était vieux, et donc il en est décédé. En revanche, il faut savoir que sur son lit de mort, il a demandé à son confesseur de lire son projet de dîme royale pour bien s'assurer que ce texte, ce projet, n'allait pas contre sa conscience. Son confesseur l'a rassuré et Vauban a pu décéder en paix. Ce qui est dommage, c'est que ce grand homme, à peine décédé, il y a eu un office dans l'église de Saint-Roch. Ça, c'était donc le logement qui occupait à Paris, c'est rue Saint-Roch, et l'église Saint-Roch est au bout de la rue. Ce sont les galeries de Rivoli qui sont là. La dépouille de Vauban a été ramenée dans son petit village. Se trouve également dans l'église. Je vous conseille d'y aller parce qu'il y a des plaques où sont racontées les histoires insensées qui s'en sont venues par la suite. Notamment lorsqu'en 1808, il a été décidé de rapatrier le cœur de Vauban pour le mettre dans les Invalides à côté de celui de Turenne. Et le texte que j'ai lu dans cette église raconte comment on a tellement bien arrosé la façon dont Vauban était enfin reconnu un grand homme, qu'on a perdu le cœur, et pendant plusieurs jours on l'a cherché, on a fini par le trouver dans une mangeoire d'écurie, Dieu merci. Sinon, aussi bien, il n'y aurait rien eu dans les Invalides. Donc, Le souvenir de Vauban aujourd'hui, bien, ce sont des statues à Avallon, à Saint-Léger-Vauban, qui était le petit village qui a pris le nom de Vauban par la suite, sous Napoléon III. Il y a un extraordinaire petit musée que je vous recommande. Et je pense vous avoir à peu près tout raconté, pas tout raconté de Vauban, mais je pense vous avoir dit ce qu'il y avait à retenir, en tout cas ce qui rend le personnage si attachant. Je vous remercie, et s'il y a des questions pas trop difficiles, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Quelques questions, quelques précisions ?
Vous avez montré un genre de chaise à porteur.
Oui.
Voilà. Non, pas celle-là.
Ah, après. Voilà.
Voilà, c'est ça. Alors ça, c'était pas une basse.
Si, c'est une basse. Alors c'est même celle qui figure dans tous les ouvrages historiques sur Vauban. Vous retrouvez cette gravure. Elle existe avec un autre cadrage, mais elle est particulièrement typique. Si ce n'est que, en réalité, elle est trop courte, parce qu'on ne peut pas avoir deux banquettes en vis-à-vis dans celle-là. En revanche, ce qu'il n'y a pas sur les autres, c'est la bague en travers pour les bagages.
Ça, c'est une chaise à porteur.
Précision.
Avec plaisir.
Elle a été dessinée par un peintre natif d'Avallon. Le nom m'échappe, et au 19e.
Celle de la gravure, là ?
Oui. Tout ça, oui.
Ah, ben je suis content de l'apprendre. Parce que donc je sais qu'elle est à son origine, ce sont les ouvrages qui datent de la fin du 19e. Mais donc c'est quelqu'un de là-bas qui l'a inventé, enfin qui l'a dessiné.
Je l'ai signalé dans un ouvrage. Une des gravures est même signée. Le nom
est exact. Exact. J'ai recadré la signature, il est en bas à droite, mais
en
je l'ai
enlevé. Voilà.
Oui, absolument. Et les deux autres que vous avez vus en photo ont été faites pour des films. Celle qui est en gris avec deux chevaux, c'est pour ce film qui est passé sur Arte plusieurs fois, qui s'appelle La sueur épargne le sang. Et l'autre est exposée à Guillestre-Mont-Dauphin. Mont-Dauphin Guillestre, pardon, sous Briançon. Enfin, c'est une vallée qui donne sur la vallée de Briançon.
Il a passé combien de temps sur le canal du Midi ?
Sur le canal du Midi, ça c'est une colle. Je l'ai su. Écoutez, il a dû y revenir à 3 ou 4 reprises, parce que ça a été très difficile à résoudre. On avait notamment les problèmes d'ensablement et des problèmes de pente. Mais je serais tenté de vous dire que il n'a pas dû y passer au total plus de 2 mois. C'est aussi une. Si vous voulez, vous pouvez me laisser vos coordonnées, je vous le vérifierai. Hein. Je sais où trouver l'information précise. En revanche, il faut savoir que dans les Alpes, lorsqu'il va devoir fortifier d'urgence les Alpes suite à une attaque brutale par les Savoyards, par un col, le col de l'Arche, on ne pensait pas que ça pouvait passer, il est resté 1 mois et demi. En fin d'automne, dans les vallées alpines, il a fait un travail de repérage à une vitesse considérable. Donc c'est quelqu'un qui allait très 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 vite. Donc pour travailler sur quelque chose d'envergure comme le canal du Midi, sur le canal du Midi en plus, autant qu'il m'en souvienne, l'essentiel des problèmes se situait côté Méditerranée. Donc il n'a pas eu à travailler beaucoup sur la zone plutôt versant Atlantique. Mais si vous voulez, laissez-moi vous coordonner tout à l'heure, je vous le dirai très précisément. Voire même, il ne s'est pas exclu qu'à la librairie du Château de Versailles. Est-ce qu'il y a des séries sur les ouvrages de Vauban ? Ceux de Champvallon, des éditions du Champvallon.
Ah, je pense que nous l'avons.
Il y en a un qui est consacré justement à tous les travaux hydrauliques, qui est fait par Michel Tirole, et dans lequel vous aurez cette précision-là.
Laquelle Michel Tirole fera paraître au mois de septembre.
On a hâte.
2017,
oui.
La totalité de la correspondance de Vauban avec Louis XIV et aussi la totalité de ses carnets personnels.
Ouais.
Ça, c'est tout à fait inédit.
Alors, puisque vous en parlez, toutes les oisivetés ont été réunies dans un volume de 1200 pages.
Oui,
sous la direction de Michel Virol d'ailleurs, qui elle-même a fait appel aux meilleurs historiens spécialistes des différentes questions, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un outil merveilleux pour comprendre, mais vraiment dans le détail, l'œuvre de Vauban. Et donc, tous les textes d'origine et variantes sont repris, et avec un appareil éditorial, des commentaires qui sont juste assez beau métier que celui d'historien, vraiment.
Il y a un endroit qui est très intéressant aussi à visiter, qui concerne Vauban, c'est le château de Rosambeau. En Bretagne.
Ah bah oui, puisque donc les fameux textes se sont retrouvés dans la famille Rosambeau.
Toutes les archives familiales se trouvent là.
Tout est là, et les jardins sont superbes. Oui. C'est vers l'Agnon, si vous connaissez, dans le sud de l'Agnon, légèrement vers le Quirec, à peu près. Autre question ? Oui, il y en a un ?
C'est pas une question. Moi, je vais faire de la propagande pour le château de Bezos. Il faut absolument aller visiter cette région.
Le château de
Ah
oui.
C'est absolument.
Ah, c'est émouvant parce que c'est resté dans. Enfin, c'était restauré comme il faut.
Merveilleusement par le propriétaire actuel.
Oui, tout à fait.
Parce que si vous y avez été il y a une quinzaine, une vingtaine d'années.
Je crois que je n'y ai pas été pour cette raison, pas d'ailleurs.
Mais vraiment.
Non, Bazoche.
J'engage les gens à passer un week-end là-bas, c'est merveilleux.
Alors, puisqu'on continue dans la propagande locale, vous commencez par descendre à Vézelay, à Vallon d'abord. De là, vous passez à Vézelay, vous descendez d'abord, vous passez par le lieu dit Vauban, qui est une ferme fortifiée, qui est à 3 km au sud de Bazoches, qui est donc donné le nom, parce que de Vauban, en fait, il était un hobby en devenant ingénieur. Mais il avait une famille d'origine, donc c'est de Vauban. Si vous descendez encore plus au sud, vous aurez Épiry, qui est donc le château que je vous ai montré, qui est celui de son épouse.
Et après, il y a Marcilly.
Et Marcilly, pardon. Et il faut faire la traversée après du Morvan. Alors là, c'est l'aventure qui commence. Pour remonter à Saint-Léger, par toutes les petites routes qui montent, qui descendent, qui tournent, et là, on comprend ce que je vous racontais de la jeunesse de Vauban dans cette nature sauvage, dans cette montagne. Là on comprend tout. Avec les forêts, les pâtures, là, on a le grand homme, on vit avec lui, là. Et ce n'est pas si courant, d'ailleurs, qu'on ait des personnages dont on puisse se rapprocher de façon si, j'allais dire, intime, ou disons intime, de si naturel sur le terrain, ouais.
Les gens qui travaillaient avec lui, avec quelle formation ?
Ah, alors, à l'époque, lorsque Vauban devient militaire, tout officier recevait une formation de construction de défense et une formation de sapeur pour attaquer. La façon dont à l'école on apprenait les mathématiques était une manière pratique. Les garçons, parce que les filles n'apprenaient pas, apprenaient la géométrie en dessinant des plans de défense. C'était immédiat. Et là, bon, le savoir était très empirique, hein. Et là, il y avait deux solutions. Soit on survivait longtemps aux assauts, vous avez vu la cuirasse de Vauban, soit on ne survivait pas. Donc le travail de Vauban a consisté, dans un premier temps, à limiter les pertes, et ensuite à diviser les militaires en deux, ceux qui tenaient un fusil et ceux qui tenaient une pelle, parce qu'il avait vite compris que celui qui tient un fusil tient mal une pelle, et celui qui tient bien une pelle tient mal un fusil. Il a donc créé un corps des sapeurs et des ingénieurs, mais qui, autant qu'ils m'en souviennent, n'a été mis en application que sous Louis XV, voire Louis XVI. Il n'a pas réussi à le développer. En revanche, il a développé, il a formé autour de lui, je dirais, une petite centaine d'ingénieurs. Un des plus connus s'appelle, je vais utiliser le micro, vous entendez peut-être très bien, l'un des plus connus s'appelle Garangeau, et par exemple les fortifications de Saint-Malo et de Bretagne-Nord, qui sont attribuées à Vauban, ont été conçues par Vauban, dessinées par Vauban, mais ont été construites par Garangeau. Le fort de la Conchée à Saint-Malo, alors ça c'est le chemise malouin, je suis malouin, excusez-moi. Nous ce qu'on dit c'est que oui, en fait Vauban il a confié le fort de la Conchée à Garangeau parce que Vauban savait très bien que c'était impossible et qu'il n'y arriverait pas, mais Garangeau a réussi. Et c'est vrai que le fort de la Conchée est un travail complètement fou, puisque les batteries basses sont creusées dans le rocher, et donc des salles entières ont été taillées dans le rocher avec une voûte ajoutée qui se confond complètement au rocher de base. C'est un petit chef-d'œuvre, alors on n'y va pas, il faut débarquer avec des bateaux d'association, et c'est toujours très sportif, mais il y a des photos qui circulent beaucoup. Tapez la Conchée sur un moteur de recherche internet, vous aurez des photos absolument magiques. Mais effectivement, l'idée aussi de la standardisation des outils, tel que Vauban l'a fait, c'était aussi dans cette idée-là, former des gens capables de faire comme lui.
Les Italiens qui l'ont précédé avaient des ingénieurs ou...
Oui, je vous ai parlé de Bérard tout à l'heure, donc sous Henri IV, ça existait déjà. Mais Vauban a été le premier à, comment dire, si j'ose dire, à mettre des chiffres dans le métier d'ingénieur. Ça paraît énorme à dire, mais c'est... En tout cas, à l'époque, finalement, on se traçait à redondant comme ça, et on a tiré comme ça, si vous n'êtes pas réussi, ça devrait le faire. Avec Vauban, ça s'est précisé quand même de façon considérable. On a encore un quart d'heure, après, je crois qu'on nous chasse. Non, parce que le fort de la Conchée, même inachevé, a résisté au Lorraine. Avec plaisir, attendez, je range le micro. Je veux bien que vous l'avez, oui, je vais le faire là-bas, ce sera plus facile. Alors, ce que je fais... Que vous l'aurez senti, je vais être accroché là. Ça, je n'oublierai pas.
Oui, ok.
On va se mettre au corps là.
Thank you.